qui fâche. La grève du 5 décembre est-elle une grève pour la défense de l'intérêt général ou au contraire pour la défense de certains intérêts particuliers? On va en débattre avec nos invités. Belkhir Belhadad, bonjour. Vous êtes député de La République En Marche de Moselle et membre de la Commission des Affaires Sociales. Hippolyte Dalbis, bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'École d'économie de Paris, directeur de recherche au CNRS. Nathalie Arthaud, bonjour. Porte-parole du mouvement Lutte Ouvrière. Cyril Chabanier, bonjour. Président de la CFTC. Vous avez été reçu hier à Matignon. J'en profite pour vous poser une question. Là, en ce moment, c'est Philippe Martinez qui vient de rentrer à Matignon. Vous l'avez vu hier, le Premier ministre. Est-ce que vous avez des réponses à vos questions?
On n'a pas eu de réponse à nos questions, mais on a eu en tout cas un engagement du Premier ministre de nous apporter les réponses avant la fin de l'année. Ouais. Et on a profité, nous en tout cas, pour lui redire toutes nos propositions importantes pour cette réforme.
Avant la fin de l'année, Monsieur Belhadad, ça veut dire avant la grève du 5 décembre ou après? En gros, est-ce qu'on attend de voir le niveau de mobilisation pour commencer à annoncer ce que ça va être concrètement, cette réforme-là?
Je pense que les annonces vont être faites très prochainement. Je pense que
très prochainement avant la grève ou après?
En tout cas, moi, j'espère qu'elles le seront avant la grève, effectivement, pour donner quelques assurances. Et je pense que des annonces seront faites après la manifestation. Il faudra aussi regarder l'ampleur de cette manifestation. Et je pense que on doit être. Est-ce que ce qu'on a fait depuis...
Votre réponse devrait dépendre de l'ampleur de la manifestation, selon vous?
Non. Enfin, disons qu'on doit prendre en considération l'ensemble des éléments. Ce que nous disent les syndicats lors des concertations qu'on a eues depuis de très nombreuses semaines et depuis de nombreux mois. Être à l'écoute, c'est aussi prendre en considération un certain nombre de choses qui nous sont remontées. Il y a eu déjà des annonces qui ont été faites, le système de répartition et du renforcement des solidarités qui sont maintenues. On a eu un certain nombre de propositions qui sont faites par rapport aux propositions de corps et on s'est positionné.
Conseil d'orientation là-dessus. Des retraites.
Oui, tout à fait. Et donc les choses se poursuivront, y compris après le.
Parce que pour l'instant, c'est quand même très flou. Je crois que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Et comme dit Martine Aubry, quand c'est flou, il y a parfois un loup. Le loup du jour, il est soulevé par Le Figaro. Vous me dites ce que vous en pensez. Il concerne les femmes salariées qui ont eu des enfants, qui ont donc interrompu leur carrière, qui ont perdu du coup des trimestres. Dans le système actuel, elles avaient des compensations. Dans le nouveau système, nous dit Le Figaro, si on se base sur le rapport Delevoye, qui reste l'hypothèse pour l'instant, une mère qui a eu deux enfants perdrait 4 354 € par an de retraite, c'est-à-dire quand même 17% de moins. Et alors pour un couple qui a eu trois enfants, la baisse est de plus de 18% sur la pension annuelle. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est susceptible d'être modifié, justement, ou c'est une réalité? Il faut l'acter. Les mères qui ont eu des enfants donc, et qui sont salariées vont perdre au niveau de la retraite.
À l'occasion des concertations qu'on a eues, il y a eu un certain nombre de constats. Aujourd'hui, vous avez 20% des femmes qui prennent leur retraite à l'âge de 67 ans. Vous avez un niveau de pension entre les hommes et les femmes de près de 40%. Ça, c'est aujourd'hui, dans le système d'aujourd'hui, est déjà
Oui, mais justement, le nouveau est censé rendre plus équitable, et là, ça ne va pas être plus équitable pour les femmes.
Et les propositions qu'a fait Jean-Paul Delevoye dans son rapport, c'est justement de pouvoir corriger ces
éléments-là. Justement, ça crée l'inverse, c'est bien ça dont on parle. Ça crée l'inverse, apparemment.
Écoutez, je ne sais pas dans quel scénario très précisément ça a été fait, mais en tout cas, ce que...
Ces chiffres-là, c'est pour un salaire de 40 000 euros par an. Voilà, c'est la moyenne à peu près. Oui. Ça donnerait ça. Vous l'assumez ou pas politiquement? Vous l'assumez?
Mais attendez, pour l'instant, c'est un scénario précis pour.
C'est le scénario de Delevoye.
Mais tout le monde ne gagne pas forcément.
C'est le scénario du haut commissaire à la réforme des retraites. Pas n'importe qui.
Oui. Non, mais nous, je vous dis ce qu'on veut faire, c'est corriger ce que je vous ai dit à l'instant, les déséquilibres actuels de ce système, notamment en proposant une revalorisation en fait des pensions de 5% pour chaque enfant, alors que c'est pas le cas aujourd'hui. C'est le travail qui est fait sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Et Pauline Dalbis, est-ce qu'on peut aujourd'hui affirmer que ce qui est prévu dans la réforme de demain, ça sera plus équitable? Ou est-ce que ça peut l'être moins, comme on vient de le voir avec cet exemple?
Le but, c'est d'être plus équitable. En tout cas, c'est ce qui est avancé. Et c'est vrai que ce qui est soulevé, c'est cette question très particulière, en fait, de la compensation des femmes. En fait, on dit les femmes, mais en fait, ce sont aussi les couples qui ont des enfants. Donc, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le système actuel, le système de retraite, est aussi à une composante politique familiale. Et ce qu'on appelle ces droits familiaux à la retraite, qui sont les compensations pour des personnes qui ont eu des enfants, ça représentait un peu plus d'1% du PIB. D'accord, ou ça représente quelque chose, 1% du PIB. C'est beaucoup. Moi, à mon sens, ce n'est pas de la bonne politique familiale. D'accord ? Il faut en effet aider les familles, mais il faut aider les familles au moment où on a des enfants. Ce n'est pas beaucoup plus tard, à la retraite, lorsque les enfants sont partis, qu'il y a une justification à faire de la politique familiale. Donc, d'une certaine manière, je n'aime pas trop finalement cette façon de dire, bon, ils perdent, ils gagnent, etc. On peut ce jeu permanent de savoir...
Enfin, c'est ce que les Français vont regarder à la fin des fins. Hein. Non, est-ce que j'y perds ou est-ce que j'y gagne ?
Oui, mais bien sûr. Mais l'occasion d'un changement d'un système de retraite, c'est le repenser aussi dans toutes ces dimensions. Et ça, cette dimension politique familiale, elle est très importante.
Nathalie Arthaud.
Mais très clairement, nous serons tous perdants dans cette réforme. Absolument tous perdants. Alors, je sais bien que le petit jeu du gouvernement, c'est de faire croire qu'il s'attaque aux régimes spéciaux. Mais de jour en jour, on en apprend davantage. Et on découvre là aujourd'hui que c'est les mères avec trois enfants qui vont perdre de l'argent sur leur pension. On apprend que les pensions de réversion seront versées, mais plus tard. Et puis, on a, en tout cas, moi, je suis enseignante. Nous avons fait nos calculs. C'est 300, 400 euros de moins sur les pensions. Et ça sera vrai aussi pour les ouvriers du privé, pour les employés du privé, pour toutes les entreprises du privé. Et puis, il y a cette idée que le gouvernement et que Macron a très clairement exprimée la semaine dernière, c'est qu'il y aurait des mesures d'âge. C'est-à-dire que il va falloir travailler plus longtemps et repousser la retraite. Alors, voilà.
Ça, pour l'instant, ce n'est pas encore dans la réforme.
Mais il l'a clairement dit. Il l'a clairement dit. Il nous a expliqué qu'il faudrait faire des économies. 10 milliards.
Ça fait partie des flous, effectivement.
Voilà, ouais. Des flous.
Mais les personnes travaillent déjà.
Cette réforme, écoutez, on n'en est pas à la première réforme des retraites.
On va revenir sur ce débat-là qui est un vieux débat.
De réforme de retraite. En réforme de retraite, que s'est-il passé ? Il a fallu travailler plus longtemps pour une pension inférieure. Donc effectivement, il va falloir descendre dans la rue. Moi, je vous entends dire que le gouvernement attend le 5 décembre pour faire des annonces. Eh bien, c'est un encouragement que vous nous faites là. Vous nous encouragez à descendre le plus nombreux possible dans la rue, à être en grève et à protester le 5 décembre. Parce que plus nous serons nombreux, plus le gouvernement reculera.
Cyril Chabanier, vous le vivez aussi comme un encouragement à descendre dans la rue le 5 décembre, même si vous, votre syndicat n'est pas très allant sur cette...
Je ne le vois pas comme un encouragement à descendre dans la rue, mais une chose qui est sûre, c'est que la communication du gouvernement depuis un certain temps accentue le flou, et quand on accentue le flou, on accentue les inquiétudes. Donc ça, c'est une évidence, et on comprend que les inquiétudes soient plus que légitimes aujourd'hui. C'est bien dommage d'ailleurs, parce que vous savez, il y a deux débats qui sont un peu différents. Il y a le principe d'un régime universel par points, sur lequel nous on pense que c'est une bonne chose et on le demande depuis d'ailleurs 10 ans à la CFTC.
Sur la philosophie, vous êtes d'accord ?
Sur la philosophie, on est d'accord. Mais ensuite, on peut faire un régime universel par points qui est vraiment juste et ou sur lequel il n'y a pas de perdant.
Ouais. Et aujourd'hui, vous ne savez pas le dire.
Ou on peut en faire un qui, à la fin, est complètement juste. Mais ça, c'est des modalités. Ouais. Mais ce n'est pas le régime en soi. Ouais. Ce n'est pas le principe en soi qui pose problème. Ouais. C'est les modalités à l'intérieur. Et c'est sur ça où on a des différences avec le gouvernement, parfois importantes.
Alors, on a bien compris que les modalités, pour l'instant, on ne les aurait pas tout de suite. Ce qu'on a, en revanche, c'est ce qu'on appelle les fameux éléments de langage sur cette grève du 5 décembre. Pour s'en convaincre et pour comprendre ce qui est en train de se jouer, écoutons la parole, j'allais dire, de la majorité.
Cette mobilisation est avant tout la mobilisation de salariés d'entreprises qui relèvent des régimes spéciaux. Donc c'est une mobilisation contre la fin des régimes spéciaux.
Ils ont un statut qui est historique et qui ne correspond plus à la façon dont ils exercent le métier maintenant.
Par exemple, quand on parle des régimes de retraite, il y en a certains qui sont plus favorisés que d'autres. Il ne s'agit pas de se lancer dans une chasse aux sorcières, il s'agit simplement de faire en sorte que nous soyons et que nous ayons un régime de retraite qui est adapté au XXIe siècle, c'est-à-dire qui s'adapte au parcours de chacun et qui lutte contre les inégalités et certaines injustices du système de retraite actuel.
Nathalie Arthaud, j'imagine que ça vous fait bondir. Grosso modo, on explique que ce sont des privilégiés qui veulent conserver leurs privilèges.
Bien sûr, parce que ça, c'est diviser pour régner. C'est une méthode classique de gouvernance, hein, n'est-ce pas ? Voilà, non. Et puis, de façon générale, moi, c'est vrai que quand on parle de travailleurs et que nous les accusons, enfin, qu'on les accuse d'être des privilégiés, je trouve ça insupportable. Voilà. Les privilégiés ne sont pas à chercher du côté du monde du travail. Et ils ne sont pas à chercher du côté de ceux qui se lèvent à 4 heures du matin pour faire rouler les trains ou les premiers métros ou les premiers bus. Ils sont à chercher du côté des boursicoteurs, du côté de ces rentiers, du côté de ces grandes fortunes qui peuvent faire des chèques là instantanément de 10 millions, de 100 millions, de 15 milliards. Là, vous avez vu quand LVMH a racheté Tiffany. 15 milliards sur
vous,
la table.
Vous en félicitez pas qu'un géant français puisse se payer un fleuron de
du luxe américain. Je trouve que c'est le reflet de notre société.
Vous, c'est une bonne nouvelle pour l'économie française.
Non, parce que justement, regardez, il n'y a rien pour les hôpitaux, il n'y a rien pour les salaires, il n'y a rien pour les retraites. Mais là, par contre, voilà, il y a de l'argent.
C'est pas de l'argent public, c'est pas payé par l'impôt.
Mais précisément, ce sont ces gens-là qui veulent plus payer.
La question de fond est quand même intéressante. Alors, privilège, le terme est peut-être pas effectivement le bon, parce que privilège, ça renvoie à, j'allais dire, toute une iconographie révolutionnaire.
Mais il n'a pas été employé.
Mais enfin, vous avez bien vu quand même qu'on tournait autour. Est-ce qu'ils ont raison de dire qu'aujourd'hui, il y a des systèmes qui sont, bon, plus avantageux, c'est factuel, mais qui sont avantageux de manière exorbitante, j'allais dire. C'est un peu ce que dit Emmanuel Macron quand il parle de défense de systèmes d'un autre temps, d'une autre époque, dit-il.
Bon, les systèmes qui préexistaient, en fait, au régime de la sécurité sociale, au régime de 45, que maintenant on appelle spéciaux, mais simplement qui existaient, hein, et notamment celui des grandes entreprises, que ce soit de transport, des mines, ou bien les gaziers et l'électricité. Donc ce sont des régimes historiques. Il y a, depuis les années 2000, il y a un certain nombre de réformes qui font en sorte que, en fait, ça converge vers le régime de la fonction publique. Et ça se faisait petit à petit. Il me semble que le gouvernement aurait pu continuer cette convergence et avoir un vrai débat démocratique sur qui sont les personnes à qui on accorde, d'une certaine manière, un avantage spécial. D'accord, je pense qu'il n'y a pas tellement de discussion pour dire que les surveillants de prison ou que les membres des forces armées doivent partir à la retraite plus tôt. En fait, je pense que tout peut se discuter le cadre de la fonction publique. Je pense que quelque chose qui était un petit peu gênant, c'était d'avoir ces différences au sein de la fonction publique. Maintenant, la réforme, c'était de dire on va mettre tout le monde, vous voyez, au même niveau. Et là, c'est vrai que ça crée une complexité de plus. Oui, parce que je veux dire, le système de la fonction publique, il est quand même assez simple. C'est une personne sur cinq en France. Oui. Et en gros, si vous avez une carrière complète, vous allez partir avec une retraite qui est à 80% de votre dernier salaire. Bon, il n'y a pas plus simple. D'accord ? Et c'est historique, ça remonte à la marine de Louis XV, etc. Vous voyez, donc là, on change tout et on dit vous allez avoir des points et puis la valeur du point, on ne sait pas très bien ce que ça va être. Forcément, les gens ne sont pas contents. Vous voyez ?
Il y a trois régimes spéciaux, grosso modo, qui sont souvent mis sur la table parce que l'État considère que, et la Cour des comptes d'ailleurs considère que ceux-là sont quand même assez exorbitant en termes d'avantages. On parle de la SNCF, de la RATP, des gaziers et des électriciens. Regardez ce que ça donne en niveau de pension, juste comme ça on sait de quoi on parle. Moyenne. À la SNCF, un cheminot part avec une pension moyenne de 2000 euros, à la RATP 2350 euros, chez EDF 2600. Pour rappel, la moyenne du régime général, c'est 1300. Comme les infirmières d'ailleurs, les infirmières de la fonction hospitalière. C'est-à-dire qu'il y a régimes spéciaux et régimes spéciaux. Là, ceux-ci sont-ils exorbitants? C'est ça la question qui est posée.
Voilà, je pense qu'il ne faut pas le comparer au régime général, encore une fois. Vous voyez, c'est pas du tout pareil, voilà, la fonction publique.
Ok, c'est pas pareil, mais est-ce qu'il faut le changer? Est-ce que c'est exorbitant? C'est la question qui se pose à l'économiste expert.
Il faut faire la convergence au sein de la fonction publique, d'accord? Avec des différences selon la pénibilité du travail, bien sûr.
Non, mais moi, je trouve ça complètement dingue. 2000 euros par mois. Vous trouvez ça exorbitant pour vivre aujourd'hui 2000 euros par mois?
Non, c'est pas la question, c'est si on compare les différents régimes.
Mais c'est la question qu'il faut se poser. Comment peut-on vivre aujourd'hui, se loger, se nourrir, se déplacer avec moins 2000 euros par an? Mais il n'y a rien d'exorbitant. Vous avez parlé de trois régimes spéciaux. Vous avez dit qu'il y a trois régimes. Mais moi, j'en rajoute un autre régime spécial. C'est celui des grands actionnaires et des grandes fortunes qui ne se posent même pas la question de leur retraite parce que de toute façon, comme ils touchent des dizaines de milliers d'euros tous les mois, ils savent très bien qu'ils n'auront aucun problème. Et d'ailleurs, certains sont retraités à la naissance, parce qu'ils sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Voilà. Donc, c'est ce régime spécial-là qu'il faut regarder, parce que c'est à eux de payer. Parce que moi, je pense qu'effectivement, ce sont ces gens-là qui, précisément, depuis des décennies, ne veulent plus rien payer. Plus rien payer en cotisation, par exemple. Donc, voilà, ce qu'ils appellent les charges. Mais c'est là-dessus qu'il faut prendre de l'argent pour, effectivement, pérenniser les systèmes de retraite. Et puis, pour les remonter, les pensions de retraite sont effectivement trop basses pour la grande majorité des travailleurs. Donc, il faut les remonter.
Tous les syndicats ne disent pas la même chose. Est-ce que vous considérer qu'il y a quelque chose à revoir dans ces régimes spéciaux-là qu'on vient de pointer?
Mais ce n'est pas le problème de revoir les régimes spéciaux, c'est le problème de pouvoir...
Pour le gouvernement, ça l'est un peu aussi.
C'est le problème de pouvoir faire une convergence entre tous les régimes. Oui.
Ça revient au même.
Ça revient à peu près au même.
Mais vers Bernard Arnault, ce serait bien.
Mais on peut converger déjà vers le haut et pas forcément vers le bas, c'est clair. Mais ce qui nous fait aller vers un régime universel, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi une réflexion qui est une réflexion au niveau des statuts des personnes. Nous, à la CFTC, on veut pas parler de statut de la personne, on veut parler justement de la personne en soi. Et évidemment qu'il y a des questions qui se posent sur, sur des métiers qui sont équivalents. Si je prends un chauffeur un chauffeur de métro à la RATP à Paris ou un chauffeur de métro à Marseille, ils ont le même travail, à peu près la même pénibilité. Et donc, ce qui doit rentrer
en
compte.
Pas du tout la même pension à l'arrivée.
Mais pas la même pension. Ce qui doit rentrer en compte, c'est leur pénibilité. Et d'ailleurs, nous, on travaille beaucoup sur la pénibilité, y compris le mettre dans la fonction publique qui n'existe pas aujourd'hui. Et c'est un travail qu'on fait. Mais on doit. C'est pas le problème qu'ils soient favorisés ou pas. C'est la pénibilité qui doit être prise en compte. Se lever à 4 heures du matin, après que ce soit à Marseille ou à Paris, ça doit donner la même pension.
Normalement, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La question de la pénibilité, le gouvernement répond et vous répondez dans la majorité, oui, ça sera pris en compte dans le nouveau système. Prenons l'exemple du chauffeur de bus, par exemple. La RATP, il part à 51 ans, vous dites, non, ça, ça ne va pas, c'est trop tôt. Ça serait quel âge, dans le nouveau système, un bon système pour les chauffeurs de bus de la RATP, puisqu'on prend toujours cet exemple-là?
Oui, si on prend celui-là, effectivement, la pénibilité sera prise en compte. Il y a une phase transitoire.
Quel âge?
Oui, je n'ai pas d'âge à préciser.
Et si on fait une réforme et qu'on juge que c'est exorbitant, c'est parce qu'on a une idée de ce qui serait juste.
Vous avez des dispositifs qui sont différents d'un régime à un autre. Vous avez, par exemple, les bus, les conducteurs de bus, par exemple, je vois, par exemple, sur Metz, quand je descends de la gare, eh ben, ils partent à 60 ou 60, 62 ans.
Donc ça ne vous choquerait pas qu'à la RATP, on conduise un bus jusqu'à 62 ans? C'est une question, hein?
Mais moi, ça ne me choque pas personnellement. Mmh. Mais simplement, il faut que le contrat social entre les salariés et la société puisse être très clair là-dessus et que le plan de convergence puisse prendre en compte cet aspect-là. Mmh. Moi, ce que je voulais dire par rapport au régime universel et à la convergence, parce que l'idée derrière, c'est effectivement la suppression de l'ensemble de ces régimes mais spéciaux. Mais pourquoi nous le faisons? C'est parce qu'on constate, et la question, elle est fondamentale, pourquoi nous le faisons? Parce qu'on constate qu'un certain nombre d'inégalités constatées par l'ensemble des Français, 85% des Français, on a 13 modes de calcul pour les pensions de reversion. On a une égalité de pension entre les femmes et les hommes de 40%.
Aligner
on a 3,1% de pensionnés. On a à même carrière et même métier des différences extrêmement importantes. Je dirais pas privilégiées, mais plutôt favorables. Et le seul système qui permettrait de pouvoir le faire, et c'est un système qui existe déjà au niveau de l'Agirc-Arrco, c'est de mettre en place un système avec des règles qui soient cohérentes à l'ensemble des salariés, des fonctionnaires et des indépendants.
Je reviens sur ce que vous dites, Madame Artaud, alignons-les sur le haut. Le problème, c'est que si on aligne ça sur ces régimes-là, ils sont déjà déficitaires. C'est ce qui pose problème. D'ailleurs, on va peut-être regarder les chiffres. Quelle est la part du financement du régime lui-même et par l'État? Regardez, la compensation de l'État au régime spécial des cheminots, c'est 64%. Ce que ça coûte, c'est payé par l'État. Quand on dit l'État, c'est les Français, c'est les impôts, hein. RATP, c'est payé par l'État à 59%. Les industries électriques et gazières, 32%. Est-ce que c'est aux Français de payer les régimes spéciaux des cheminots, de la RATP et des gaziers?
Ah mais moi, c'est ce que j'ai dit. C'est au grand patronat. Voilà. C'est aux grands actionnaires.
C'est comme ça que
c'est
ça se
à tous ceux-là qu'il faut effectivement imposer
depuis. Une autre réforme que vous appelez de vos voeux.
Alors. Mais vous savez, tous ces choix-là, ces choix-là de retraite, sur le chômage, sur l'emploi, sont des choix de classe en réalité. De quel côté on est? On est pour qu'une minorité s'enrichisse toujours plus ou on est pour que l'ensemble de la société recule? C'est ça la question.
Hippolyte Albis, juste une conclusion là-dessus.
Non, c'est vrai. Une grosse partie des déficits est quand même liée à des démographies qui sont spécifiques à chaque métier. Oui. Voyez
la Cour des comptes dit là, dans le déficit de ces régimes, c'est la démographie n'est que pour 10%.
C'est pas vrai. La Cour des comptes dit que c'est la moitié.
Ouais. La moitié au global.
La moitié du déficit.
Mais quand on regarde précisément, c'est beaucoup moins.
Pour la SNCF, juste donner les chiffres exacts, c'est quand même 250 000 pensionnés pour 126 000 cotisants.
Oui. SNCF et RATP, oui, ça fait 4 milliards.
Ça n'empêche pas de prendre des décisions.
Le déficit, c'est un problème de recettes.
Hippolyte Dalgis, pardon, je vais vous rendre la conclusion, mais SNCF et RATP, 4 milliards mis chaque année par l'État pour compenser le déficit pour 300 000 bénéficiaires. Est-ce que l'équation est raisonnable?
Oui, mais de toute façon, vous allez avoir des régimes qui ont des structures démographiques qui sont différentes. Prenez aussi les paysans, par définition. Vous voyez, il y a beaucoup plus de retraités que de cotisants. Vous voyez, ce sont les évolutions de ces métiers. Et il n'y a pas de raison que les retraités des métiers qui évoluent de cette façon soient pénalisés. Et c'est bien pour ça qu'il faut avoir une convergence des caisses de retraite. Vous voyez, pour ne pas faire en sorte qu'il y ait certains métiers qui pâtissent de cette évolution.
révolution.
Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin sur cette réforme des retraites à une dizaine de jours maintenant de la grande grève.